Ça fait déjà quelques années que Didier Mouly est maire de la ville de Narbonne. Depuis 2 ans, donc on approche, là c'est en juillet, c'est donc le deuxième mandat. On est aujourd'hui avec Bertrand Malquier, le premier adjoint à la ville de Narbonne. Adicias. Alors on va parler, donc on va faire un petit retour en arrière, donc évidemment de ces années écoulées déjà, longues années on peut dire, déjà années chargées.
Non, c'était des belles années. Ce sont toujours l'activité municipale est une activité très prenante, mais passionnante.
Prenante en heure.
Alors c'est chronophage effectivement, puisque on y passe énormément de temps. Mais le fait de servir l'intérêt général et d'engager des actions et de concrétiser ces actions surtout, ça fait plaisir et ça motive et ça permet de se relancer. Et donc du coup, avec Didier Mouly, nous avons pris beaucoup de plaisir à renouveler notre candidature, à réobtenir la confiance des Narbonnais, à repartir sur un nouveau mandat plein d'actions, plein de perspectives, plein d'horizons.
Est-ce que c'est ça justement qui fait le sel un peu de ce métier qui est compliqué ? On le sait, on le voit même encore de nos jours.
Alors je vous corrige juste, ce n'est pas un métier, puisque nous avons une longue pratique, puisque Nouveau-Narbonne, la majorité à laquelle nous appartenons, est une jeune dame de 50 ans, associative, qui nous oblige, avec grand plaisir, à garder un pied dans la réalité, et donc nous avons nos activités professionnelles. Didier Mouly un peu moins puisqu'il a un peu levé le pied sur ses activités libérales. Moi, je suis toujours chef d'entreprise par ailleurs. Et ce qui nous permet de garder le lien avec nos salariés, avec les enjeux du quotidien et d'avoir cette activité politique qui vient en plus et qui nous permet eh bien, d'ajuster au mieux, au plus près des attentes des Narbonnaises et des Narbonnais, notre action municipale.
Alors, est-ce que justement, dans cette activité politique, en plus de vos activités professionnelles, est-ce que le grain de sel qu'il y a qui fait en sorte que vous continuez, vous aimez ça, c'est justement le fait de concrétiser des choses, de voir la réalisation de ces choses à l'échelle narbonnaise et que ça va peut-être s'inscrire dans la durée pour le bien, justement, comme vous disiez, du bien commun finalement.
C'est exactement ça. La seule motivation qui nous anime, mais que ce soit n'importe quel élu de la majorité municipale, c'est d'être dans la politique réelle, dans la politique de l'action, et c'est d'avoir des attentes, se faire élire sur des programmes qui répondent à ces attentes, les lancer, les définir, les budgétiser et les réaliser concrètement. Quand nous avons fait des crèches sur le mandat précédent, des voiries, quand nous avons concrétisé l'aréna, tout ça, c'est des choses palpables qui s'inscrivent dans la durée, qui répondent à des besoins, des attentes et qui permettent bien de répondre à l'attractivité de notre ville.
Et ça, c'est quelque chose, cette activité politique, que là, je m'adresse à vous, je m'adresse à votre équipe, vos équipes, mais je m'adresse aussi finalement à tous les représentants de qui sont dans cette voie politique, qu'ils soient à Béziers, à Perpignan, à Toulouse, peu importe. C'est important de reconnaître que chacun fait ce qu'il pense être pour le bien commun. Il ne le fait pas en disant « moi, je fais ça pour détruire ma ville ». Ça n'existe absolument pas. Donc, à un moment donné, c'est la passion, peu importe du bord qu'on est. On fait ça parce qu'on croit en ce qu'on est et en ce qu'on fait.
Oui, je le crois pour ce que je connais, pour Narbonne. Mais nous, on a des exigences qui sont encore différentes par rapport, vous parlez de Béziers, Perpignan, où ce sont des partis politiques qui sont à la tête des collectivités. C'est totalement différent. Nous sommes issus de la société civile et nous n'avons pas de cumul de mandats. Nous n'avons pas de mandats nationaux, nous n'appartenons pas à des partis politiques nationaux, donc nous n'avons pas de ligne de conduite nationale à décliner sur le local. Les choix partent de la population et remontent vers la municipalité qui décide et qui agit.
C'était ça, c'était ce que vous disiez tout à l'heure. C'était un choix pour cette dame de 50 ans, Nouveau-Narbonne, de dire ce n'est pas un métier pour vous, politique, politicien, c'est d'être dans vos domaines respectifs et en plus,
c'est ça.
Vous faites ça pour garder ce pied dans la société.
C'est ça. Je prends un exemple, Madame Allot, qui est notre adjointe aux ressources humaines depuis 8 ans, est dans la vie civile responsable de ressources humaines. Donc elle le pratique dans sa vie professionnelle depuis très longtemps et dans sa délégation municipale, eh bien, elle essaye d'apporter les nuances qu'elle a pu constater dans un sens comme dans un autre. Alain Vico, qui par exemple est propriétaire d'une auto-école, eh bien, voit l'espace public ou voit la route d'un point de vue du pédagogue, de l'enseignant. Chacun apporte sa plus-value parce qu'on est la représentation du monde ouvrier, du monde employé, du monde enseignant, du monde des chefs d'entreprise, des professions libérales. On essaye, c'est le principe d'une liste de 47 colistiers, de représenter l'hétéroclité de ce qui se fait dans la population narbonnaise.
Et d'utiliser les compétences et les connaissances de chacun.
Exactement.
Alors justement, en parlant de ces connaissances de chacun, évidemment, ce nouveau mandat qui était donc il y a deux ans, là, en 2020, qui a recommencé de manière un peu différente du précédent, puisque c'était en pleine crise de la Covid-19.
Exactement. Alors là, ça a été véritablement en plein milieu de la campagne. Nous avons eu un premier tour en mars et un deuxième tour au mois de juillet. Avec plein de points d'interrogation, nous avions élaboré un programme à la fin de l'année 2019. Nous l'avons présenté aux Narbonnais au tout début de l'année 2020. Et arrive cette crise sanitaire, et à ce moment-là, sans connaître les rebondissements ou les perspectives. Donc il a fallu ajuster, il a fallu s'engager sur des choses un peu nouvelles, repercevoir les attentes, les inquiétudes des populations, ajuster notre programme et faire un mandat un peu différent de celui qu'on en avait programmé.
Et forcément, voilà, ce mandat, vous le disiez, n'était vraiment pas comme le précédent, finalement, pas du tout comme avant. Il a fallu, vous parliez de l'adapter, réadapter les budgets, ouais, encore une fois. La santé a forcément là aussi dû être, a pris une place prépondérante dans ce nouveau mandat, dans ces deux années écoulées.
C'est surtout que la santé n'est pas une compétence municipale à la base. Donc il a fallu qu'on accompagne sur le centre de vaccination, mais également aider les commerçants. Donc on a mis 1,5 million, puis 2 millions d'euros pour soutenir l'activité, épauler nos commerces de proximité, nos entreprises, ouvrir le centre de vaccination du Grand Narbonne et répondre présent pour soutenir la politique de l'État en matière de sauvegarde de la santé publique.
Je vais mettre des guillemets à ça. Enfin, les auditeurs ne les voient pas, mais je les mets. Vous disiez, en 2019, vous avez finalement élaboré ce programme. Vous avez été élu là-dessus en partie. Est-ce qu'il y a des choses, là, maintenant, deux ans après, fait presque trois ans, du coup, où vous dites, on a été obligé de le sacrifier et on ne pourra pas le faire d'ici la fin du mandat?
Non, c'est que notre calendrier a été différé. Nous avions une projection de calendrier avec des investissements qui devaient être réalisés dès l'année 2020, dès l'année 2021, qui ont été différés dans le temps parce qu'il y a eu des priorités nouvelles, il y a eu des ajustements. Il y a eu également une grosse partie de festivités qui n'a pas eu lieu sur la ville, des choses qui, par obligation, n'ont pas eu lieu. Donc forcément, il y a eu des choses qui ont été différées dans le temps uniquement.
Bertrand Malquier, on va marquer une pause musicale. On va respirer un peu, boire un coup. Et on se retrouve juste après et on se laisse avec Jeff Sénégas.
Dis-moi pourquoi les fleurs du mal toujours.
voilà de retour après avoir écouté Jeff Sénégas sur Radio Languedoc, toujours avec Bertrand Malquier, premier adjoint à la ville de Narbonne. On parlait avant la pause donc de ce mandat Covid d'une certaine façon, qui a aussi été marqué par un renouvellement et beaucoup de nouveautés, notamment concernant la sécurité.
Oui, c'est un axe fort de la politique qu'a voulu mener Didier Moulier, répondre à des attentes, toujours pareil, des Narbonnais, sur quelque chose qui n'existait pas à Narbonne, la police de nuit. C'est ce créneau horaire après 22h jusqu'à 1h, 2h du matin, qui nous posait des difficultés, puisque la police nationale était un peu en dedans en termes de réponse à la population. Tapage nocturne, petites incivilités. Du coup, on a de suite investi la place. 12 policiers, on a créé une brigade de nuit avec 12 effectifs de police. Et ils sont présents dans les rues de Narbonne. C'est dissuasif, mais également, ils répondent à des attentes par des appels téléphoniques directs. Alors, tout n'est pas parfait en matière de sécurité, rien n'est parfait. Mais nous avons de bons résultats. Narbonne est une des villes les mieux classées en termes de criminologie sur la région Occitanie et une des plus préservées. Maintenant, rien n'est parfait. On a toujours des difficultés ponctuel avec quelques rodéos, on a des publics un peu difficiles sur certaines rues, on a quelques trafics de stupéfiants, mais on a un travail en synergie avec le parquet de Narbonne, avec la police nationale, avec la gendarmerie sur les écarts, puisqu'on a la double compétence à Narbonne, et avec la police municipale, qui paye. Et en tout cas, on est présent, on occupe le terrain.
La police nationale qui a d'ailleurs créé justement une brigade spécialement dédiée pour le trafic des stupéfiants.
Exactement.
Environnement également ?
Police de l'environnement, nouveauté également sur ce mandat. Là aussi, c'était une réponse parce que beaucoup d'abandon sauvage, beaucoup d'incivilité. On a des gens qui s'en moquent, qui se fichent de leurs voisins, qui se fichent de ce partage. On le partage, l'espace public. L'espace public, il appartient à tout le monde. Et certains se l'approprient. Ils jettent là où ça leur va. Ils ne se soucient pas de la nature. Ils ne se soucient pas des gênes occasionnés, des conséquences. Et qui peuvent avoir des conséquences qui peuvent être importantes en matière d'amiante en particulier. Sur la santé publique. Donc cette police d'environnement, ce sont des agents assermentés qui verbalisent, qui tentent de prendre un flagrant délit. La flagrance est importante, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des caméras flash là, qui font des photographies sur des dépôts bien signalés et on commence à avoir des bons résultats et j'espère que ça va s'inscrire dans la durée et qu'on va continuer à avoir des résultats.
On va parler aussi service public. Service public, effectivement, encore plus avec ce début de mandat Covid. Là, vous avez dit, il faut vraiment qu'on y travaille là-dessus.
Oui, il faut revenir au classique, aux fonctions régaliennes, on va dire, entre guillemets, de la mairie, et apporter un service de proximité. Didier Moulier, il a souvent dit dans la campagne, il a dit sur le premier mandat, c'est un maire de proximité, c'est un maire qui marche énormément, qui est au contact direct de la population. Il attend qu'on lui parle, il aime être dans l'échange et donc il écoute. Et parmi la commande qu'il a passée, c'est de proposer un service. Un vrai service de proximité. Donc il y a eu un travail important, on a amélioré par la labellisation des services de la ville, Caliville, la relation à l'usager, on a créé des services nouveaux. Là, dans le mandat, on va refaire la maison des services, l'accueil de la maison des services. C'est un budget important parce que c'est une maison des services qui accueille 200 personnes par jour. Donc il y a beaucoup d'usagers qui l'utilisent. On est une des communes records en termes de délivrance de rendez-vous pour les cartes d'identité et des passeports, alors que c'est la gabegie nationale. Eh bien, on l'avait anticipé et on le fait sur trois sites, dont le centre-ville. Pourquoi ? Parce que ça permet l'attractivité de ce centre-ville, améliorer la chalandise, le piéton qui vient de Lyon, de Grenoble, de partout. Parce qu'à Narbonne, il y a des rendez-vous de cartes d'identité qui sont plus rapides qu'ailleurs, bien plus rapides qu'ailleurs. Et ils profitent en venant de Grenoble pour passer la journée, pour les manger au restaurant, pour aller lécher les vitrines ou dormir à l'hôtel.
Rapidement, tourisme, l'office de tourisme de Narbonne est devenu office de tourisme du Grand Narbonne, office de tourisme Côte du Midi. Pourquoi c'était important justement de basculer finalement de la localité à l'intercommunalité ?
Parce que nous sommes des disciplinaires. le législateur nous dit il faut faire des économies d'échelle, il faut que vous entraidiez, il faut qu'il y ait une solidarité intercommunale. Il faut que le village de Mayac et celui de Bize, les communes du littoral et la commune centre qui attirent du touriste, eh bien, vous profitiez pour fusionner, pour améliorer le circuit touristique. Et c'est ce qu'on a fait. On a profité du changement de gouvernance à l'agglomération pour impulser une nouvelle politique avec une marque de destination Côte du Midi à l'Office de tourisme intercommunal. Et aujourd'hui, eh bien, on travaille avec les villages, la ville-centre et le littoral, main dans la main, pour proposer une offre totale touristique. Je vous donne un petit exemple. Il fait de temps en temps du vent chez nous. Le public qui ne peut pas aller à la plage, eh bien, on le récupère et on lui dit voilà, il y a l'ensemble monumental, il y a les musées de la ville de Narbonne, il y a le patrimoine de Narbonne, mais il y a également l'Oulibo à Bize, il y a l'arrière-pays à découvrir, il y a tout le côté lagunaire, Périac, Bages. Donc on optimise le séjour et on lui dit voilà, même s'il y a du vent, eh bien, il y a autre chose à faire sur notre territoire.
Autre chose à faire pour vous aussi, 2022-2026. Quels sont les gros projets à venir? J'imagine, voilà, il y a les fameuses allées de la Robine, il y a aussi le parc des sports et de l'amitié.
Voilà, vous avez cité parmi les grands projets, les principaux. Les allées de la Robine, ça va certainement commencer dans les prochains mois, au moins le phasage des études, ça sera fait sur plusieurs mandats. Le parc des sports, la rénovation totale de la tribune d'honneur, le marché a été signé, les permis sont en cours, début des travaux en octobre ou novembre 2022, 4,5 millions, 5 millions d'euros pour faire, pour le rugby, mais également pour tous les sports et pour les entreprises, puisqu'il y aura un réceptif en dernier étage qui permettra à la fois de voir le terrain de jeu et l'ensemble monumental, la ville de Narbonne, une vue extraordinaire sur la ville de Narbonne. Donc c'est un très beau projet. Il y a le Grand Castellou aussi qui sera l'écrin de cette mission de développement durable, du PNR, et également un site de préservation et de conservation de notre patrimoine naturel qui va être un beau projet qui va être réalisé. Il y a l'extension de l'école Mathieu Perronne, il y a la crèche Les Jardins qui va être refaite complètement avec une nouvelle offre totalement novatrice. Il y a également l'espace public, toutes les rues, Narbonne Plage qui va être un grand chantier avec des pistes d'amélioration. On va améliorer le visuel, le côté architectural de Narbonne Plage et de la réfection des rues, bien évidemment. Le commerce qui reste un axe important, le commerce de proximité, accompagner le commerce, le densifier, éviter ce qui se passe dans d'autres villes voisines avec une carence locative importante sur les cœurs de bourg. Nous, on essaye, on a un service dédié qui accompagne. Nous avons des nouvelles entreprises qui s'installent tous les jours et ça, c'est plaisant. Et on est dans la bonne dynamique à ce niveau-là. Et il y a le patrimoine, la conservation du patrimoine, c'est une mission importante. Là, nous avons fait une grosse partie sur le mandat précédent. Là, c'est la tour Théodard, dernier vestige carolingien et tour un peu mère. Enfin, je ne veux pas me faire engueuler par Yves Penet parce que je pense que c'est ça, j'écoute un peu quand il me parle. La tour mère un peu de cet ensemble monumental qui est en cours de rénovation. Il y aura le palais-musée qui va être rénové durant ce mandat pour une partie. En tout cas, c'est notre héritage. Il faut qu'on puisse le transmettre aux générations futures. Donc, il est important d'y investir et c'est une des volontés de l'équipe municipale.
Donc, de beaux projets à venir là, pour ces prochaines années. Pour conclure, Bertrand Maclay, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je vous laisse 30 secondes, une minute.
4 années qui s'annoncent plaisantes. Nous avons accompli les 2 premières années. Nous continuerons dans cette voie, dans cette marque de fabrique qui est la nôtre. Nous sommes la seule collectivité de notre strate à avoir baissé les impôts sur le mandat précédent. Bien avant qu'on parle de pouvoir d'achat, on essaye de gérer le denier public comme un bon père de famille, même si cette expression est aujourd'hui condamnée, mais elle nous plaît, on la conserve. Et surtout, répondre aux attentes des Narbonnais, essayer de savoir exactement qu'est-ce qui ferait qu'ils soient fiers de leur ville encore plus qu'ils le sont aujourd'hui. Ce sentiment d'appartenance, c'est notre mission, c'est notre loisir, c'est notre passion. On y met du cœur. Quel que soit l'élu de Nouveau-Narbonne, et j'espère que nous continuerons avec cette euphorie, cet optimisme qui nous caractérise sur les prochaines années.
Eh bien, on vous le souhaite et on se le souhaite. Donc, merci beaucoup Bertrand Maclay, premier adjoint à la ville de Narbonne, d'être venu dans les studios de Radio Languedoc sous une petite chaleur pour venir nous parler de ces 2 ans et plus donc de mandat. Et à Adicias.
Merci beaucoup. Adicias.